marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée cette semaine à un homme réputé pour son franc-parler et sa droiture, admirateur de Senghor dès son plus jeune âge et séduit par la lecture de Maurice Thorez, Ahmad Dansoko est entré en politique pour défendre son idéal de justice et d'égalité. Suite à sa disparition en août 2019, nous revenons sur l'itinéraire d'un vrai révolutionnaire, tout autant respecté par ses pairs que par ses adversaires.
Je n'ai jamais été dans une école de parti. Je n'ai jamais considéré que j'étais dans une secte. J'ai toujours lutté contre. Pourquoi je le dis toujours, c'est que je ne suis pas un révolutionnaire d'occasion. Mes convictions, je les ai construites patiemment.
La voix d'Ahmad Dansoko dans La Marche du Monde. Il est contemporain de Frantz Fanon et de Che Guevara avec lesquels il a tenté l'aventure de la lutte armée. Ahmad Dansoko a été le secrétaire général du Parti de l'Indépendance et du Travail, le PAI, dont il est membre fondateur au Sénégal. Il est né en 1937 à Kédougou, dont il est l'ancien député-maire. Et ses dernières fonctions ont été celles de ministre d'État dans le gouvernement de Macky Sall. Et pourtant, Ahmad Dansoko avait participé à l'alternance de mars 2000 avec Abdoulaye Wad. Mais en homme libre, il ne se reconnaissait plus dans l'exercice du pouvoir de son ancien allié. Grande figure de la gauche panafricaine, Ahmad Dansoko m'a ouvert grand la porte de sa maison à Dakar. C'était en décembre 2011. Pour la première et la dernière fois, il se livrait en toute intimité. La Marche du Monde à Dakar, Sénégal, pour une grande rencontre avec Ahmad Dansoko, qui nous fait l'honneur de nous recevoir chez lui. Bonjour Ahmad Dansoko.
Bonjour.
Lorsque vous aviez 20 ans, Ahmad Dansoko, nous étions en 57. À quel moment avez-vous découvert cette passion en vous pour la politique ?
Je suis rentré en politique très tôt. Je suis rentré en politique par la passion de Senghor. C'est assez bizarre. Nous avions d'abord un directeur d'école communiste français qui a introduit beaucoup de choses dans la jeunesse là-bas. Je n'étais pas encore à l'école quand il éveillait les consciences. Et puis un jour, j'ai entendu dire qu'il y a un Sénégalais extrêmement savant. Il lui suffisait de regarder les arbres pour en connaître la quantité de feuilles. Et il venait de créer justement le BDS en 1948. Mon père était de la SFIO, grand notable de la SFIO, très respecté. Et je me suis pris d'une dévotion de Senghor extraordinaire.
Vous aviez quel âge, Ahmad Dansoko, lorsque vous découvrez la figure de Senghor?
En 1948, j'étais au CP1 ou CP2. Parce qu'avant d'aller à l'école, forcément, il fallait faire d'abord l'école coranique. Chez nous, c'était comme ça, c'était obligatoire. Et donc, je me suis pris de passion pour Senghor et je ne l'ai plus jamais quitté jusqu'en 51.
1951, le jeune Ahmad a 14 ans. Son père l'emmène à Saint-Louis pour poursuivre ses études. Ahmad Dansoko se passionne pour les élections législatives. Le camp Senghor s'est présenté contre Lamine Gueye.
Alors, en 51, juin 51, c'était la grande bataille entre Senghor et Lamine Gueye. Jusqu'au mois de mai, bon, c'était assez calme. Dès que la campagne a commencé, moi j'étais dans la bande des jeunes, on les appelait les Vanupiers, parce que Saint-Louis était très socialiste. Donc, aux élections de juin 51, pratiquement j'ai abandonné la classe et mes instituteurs étaient persuadés que je n'allais pas réussir l'entrée en 6e, mais même un certificat d'études.
Vous étiez très jeune, Ahmad Dansoko, vous aviez une quinzaine d'années.
Oui, mais très jeune, mais déjà politiquement désengagé.
Alors pourquoi justement? Pourquoi vous étiez si engagé?
Mais je suis engagé à cause de Senghor. L'admiration pour son savoir exceptionnel. Pour un noir, c'était Et puis, j'étais aussi attiré par une préoccupation rationaliste. Parce que nous étions dans un endroit, pendant l'hivernage, il y avait beaucoup de tonnerre. Et le mystère, le tonnerre était un mystère extraordinaire. Alors, on était terrorisés par le tonnerre.
Donc votre envie, votre amour pour la politique, votre envie de vous engager lorsque vous avez 15 ans à Madden-Soco, c'est sous l'influence de Senghor que vous admirez, vous voulez devenir cultivé, intelligent, vous voulez vous émanciper et vous voulez aussi comprendre le monde.
Comprendre le monde, voilà, voilà. Une préoccupation rationaliste, précoce.
Sénégalaise, Sénégalais, je vous ai souvent mis en garde contre une certaine maladie inoculé par le colonialisme et que j'appelais la sénégalite. C'était un complexe de supériorité. Or, votre rôle n'est pas de conduire, mais d'éclairer. C'est pourquoi l'affirmation de la personnalité, que dis-je, l'indépendance sénégalaise est une nécessité africaine.
Le premier maître à penser d'Amadou Soko, Senghor, et son parti, le Bloc démocratique sénégalais, remporte les élections de 1951.
Senghor a gagné. J'ai réussi mon certificat d'études, mon entrée en sixième.
À la grande surprise de vos instituteurs.
À la grande satisfaction de mes maîtres qui m'aimaient beaucoup. Parce que j'admirais quand même ma vivacité d'esprit. Je rentre donc à Kédougou. Je trouve un monsieur qui a été élevé par mon père, qui était déjà dans l'administration et engagé dans l'organisation la plus avancée du Sénégal à l'époque, qui s'appelle l'Union démocratique sénégalaise. J'étais toujours senghoriste, mais il avait reçu des éditions sociales de France, parce que c'est un parti qui était lié au Parti communiste français. Il me donne un livre, le premier bouquin de Maurice Thorez, L'enfant du peuple. Alors, pendant toutes les vacances, puisque je ne comprends pas très bien tout ça, je me suis mis à lire Maurice Thorez, son premier livre, et voilà, le déplacement s'est fait de Senghor vers les idées communistes. Pas rapidement, j'étais toujours attaché à Senghor. Quand il est venu deux jours de sa campagne au cinéma Rex, juste en face du lycée Feder, je me suis faufilé pour pouvoir lui serrer la main. Et donc, mon intérêt pour la politique s'est accentué à la lecture laborieuse de ce livre. Et j'ai adhéré aux jeunesses de l'Union démocratique sénégalaise. Et au lycée, j'avais des amis qui aussi partageaient ces idées. C'était flou dans notre tête, mais disons que nous sommes très sensibles aux idées d'extrême gauche.
Alors justement, qu'est-ce qui vous parlait à l'époque? Qu'est-ce qui vous a convaincu? Qu'est-ce qui vous a attiré dans ces propositions de Maurice Thorez?
Mais les idées de l'indépendance. L'indépendance. Et nous sommes devenus des nationalistes. En deuxième langue, d'ailleurs, notre groupe a choisi de faire l'arabe par admiration des nationalistes algériens. C'était difficile parce qu'on faisait tout pour nous décourager.
Vive la liberté!
Vive l'Algérie indépendante!
Vive le peuple algérien!
Admiratif des nationalistes algériens et nourri par la richesse du débat politique dans sa bonne ville de Saint-Louis, Amat Dansoko veut être lui aussi un acteur du changement.
J'ai dirigé une grève, la première grève de dimension territoriale, c'est moi qui l'ai déclenchée à Saint-Louis, 1957. La première que j'ai dirigée, celle-là je l'ai dirigée complètement. Tout Saint-Louis a été ébranlé. Il y a eu donc cette grève où j'ai failli perdre la vie. Mais les policiers avaient installé des gens juste devant le portail de la résidence du gouverneur et les policiers se jettent sur moi. Ils me frappent. Je venais d'acheter un une veste en daim, était complètement ensanglantée. Les lycéens, on est venu les déloger avec, pour la première fois de l'histoire de Saint-Louis, avec des bombes lacrymogènes. Il y en a qui ont sauté par les fenêtres, qui ont été gravement blessés. Et ils se sont réfugiés dans le quartier des pêcheurs de Saint-Louis. Aucun policier n'y entrait en tenue. Il n'y avait qu'un seul policier qui était là-bas, qui était un peu folklorique, très petit. C'est le seul policier qui était permis de rentrer dans Guendar avec sa casquette. Les gens rigolaient parce que sa casquette était plus grande que sa tête. J'avais séquestré le proviseur, M. Cézia, un personnage immense. Son fils d'ailleurs était dans la même classe que nous. Je me souviens un jour qu'il ait battu son fils presque à mort parce qu'il a été à la messe. La laïcité, à l'époque, les gens, c'était presque une religion.
Et vous, justement, Ahmad Dansoko, pour vous, à l'époque, la laïcité, c'était une valeur fondamentale.
Fondamentale. C'était une valeur fondamentale. Ici, il y a même le syndicat des enseignants, s'appelait le syndicat unique des enseignants laïcs. Les consciences étaient forgées, les élèves étaient éduqués dans ça. Surtout que le programme d'histoire accordait beaucoup d'importance à la Révolution française. Et on connaissait la vie de chacun des acteurs, les principaux de la Révolution française. Évidemment, Robespierre était mon idole, avec Saint-Just. Surtout que dans le parti auquel j'appartenais, l'UDS, quand je rentrais en vacances à Kédougou, les instituteurs organisaient des séances portant sur ces questions. C'est pourquoi la laïcité était très forte ici.
Ahmad Dansoko, vous faites vos premières armes donc au lycée Féderbe, à Saint-Louis. Vous êtes le meneur de la première grande grève des étudiants de Saint-Louis. Vous êtes communiste, vous êtes épris de justice, mais déjà, vous êtes dans une certaine forme de lutte. Vous nous dites, j'ai même séquestré le proviseur du lycée Féderbe. Est-ce que déjà à l'époque, vous vous posez la question de la lutte armée? Est-ce que déjà à l'époque, vous vous posez la question du passage par la violence ou de la question de la violence?
Nous étions en admiration de, je vous ai dit, c'est le FLN, mais surtout du Vietnam.
Le FLN et le Vietnam.
Mon premier défilé de 1er mai, c'est justement ce 1er mai qui est intervenu quand Dien Bien Phu était encerclé.
En 54.
Le 1er mai 54, les informations portaient sur le siège des troupes de Giap au Vietnam. On avait le journal Paris-Dakar. Tout le monde était là-dedans. Les discours ont été très brefs, contrairement aux habitudes des syndicalistes sénégalais, parce qu'on avait le sentiment qu'il y a un basculement de l'histoire qui s'opère. Et nous avons fait le défilé. C'est mon premier défilé de 1er mai.
Ahmad Dansoko, 1957, c'est une année importante. Vous avez 20 ans.
Oui.
Mais c'est aussi la création du parti africain de l'indépendance.
Oui.
Et vous faites partie là de ceux qui font ce choix.
Oui.
Alors rappelez-nous ce moment d'histoire.
En fait, tous ceux qui ont créé ce parti viennent de l'Union démocratique sénégalaise. Ce sont des intellectuels qui étaient en France, qui étaient au Parti communiste. Et pour Majmout, il était en Roumanie.
Majmout Diop.
Oui. Donc, le parti a été créé quand j'étais en vacances.
Vous étiez chez vous à Kédougou.
À Kédougou, oui. Et j'ai entendu à la radio le discours de Tidiane Ly, Li Tidiane Baye dit plutôt, au congrès du RDA. Il a fait des propositions pour l'unité des nationalistes pour exiger l'indépendance le plus rapidement possible. Bon, je suis rentré avec celui qui m'a donné le livre de Maurice Thérèse, parce qu'on habitait dans la maison chez moi. Il a été élevé en partie par mon père. Nous avons pris l'avion pour venir à Dakar, et il m'a amené au siège du PAI. La rue de Bayeux, siège du parti, se trouvait là, en plein centre de Dakar.
Qu'est-ce que vous avez ressenti ce jour-là?
Oh là là, j'étais très heureux. Et tout de suite, il m'a donné l'affiche, j'ai rempli l'affiche.
Pour adhérer?
Oui, pour adhérer. C'était fin septembre, début octobre 1957. Puis j'allais au lycée.
À Dakar ou à Saint-Louis?
À Saint-Louis. On a créé dans ma chambre d'élèves, 11 rue Lozon, la section du PAI. J'ai créé avec mes camarades. J'ai fait venir tous les élèves qui étaient déjà prêts à cette aventure. Et nous avons créé la section. À la réunion, il y a l'ingénieur Khalilou Sall, membre fondateur du parti. Malik Sow, membre fondateur du parti. Et il y avait un avocat stagiaire, Ibrahima Fofana, qui après est devenu, qui s'est couturé en Bastille pendant des années, qui était procureur de la République, et un instituteur de Saint-Louis. Tout le reste, c'était des élèves. Et donc, nous avons créé la section et le lendemain, nous avons vendu la lutte.
Amat Dansoko, à partir du moment où vous faites partie donc de ceux qui défendent les idées du Parti africain de l'indépendance, toutes ces années de militantisme, qu'est-ce que ça vous a appris pour la suite? Ces années ont été formatrices, vous êtes très jeune. Années-là, de quelle façon elles vous ont marqué?
Ben, je crois que je le dis toujours, c'est que je ne suis pas un révolutionnaire d'occasion. Mes convictions, je les ai construites patiemment. Je n'ai jamais été dans une école de parti. Je n'ai jamais considéré que j'étais dans une secte. J'ai toujours lutté contre. D'ailleurs, quand je suis passé à l'université, en 58, je suis arrivé une semaine après, j'étais vice-président et chargé de publication du journal Dakar étudiant. Il n'y a qu'un exemplaire qu'on a publié ici. Senghor a interdit à l'imprimerie de nous publier. J'étais obligé de prendre l'avion chaque fin du mois pour aller à Conakry imprimer le journal et le ramener à Dakar. Et à l'université, j'étais aussi bien adoré par les étudiants musulmans que par les étudiants catholiques. Parce que tous me considèrent un peu comme un communiste, c'est bizarre. Mes opinions communistes étaient connues. Ça n'a jamais été un obstacle, parce que je lisais beaucoup les œuvres marxistes, mais en même temps, je lisais Sartre, je lisais Nietzsche. Ma librairie est là.
On a vu l'occupant légitimer sa domination par des arguments scientifiques. L'oppresseur, par le caractère global et effrayant de son autorité, en arrive à imposer à l'autochtone de nouvelles façons de voir, singulièrement un jugement péjoratif à l'égard de ses formes originales d'exister. Cet événement, désigné communément aliénation, est naturellement extrêmement important. On le trouve dans les textes officiels sous le nom d'assimilation. Or, cette aliénation n'est jamais totalement réussie. Soit parce que, au sein du groupe occupé, des îlots de résistance s'organisent, soit parce que l'oppresseur quantitativement et qualitativement limite l'évolution, des phénomènes imprévus, hétéroclites, font leur apparition.
Est-ce que vous lisiez Frantz Fanon également?
Ah, Frantz Fanon. Frantz Fanon, c'est lui qui a amené les armes que le FLN avait envoyées à notre parti. Et ces armes, délivrées à Conakry, c'est moi qui suis chargé d'aller les chercher, en 1959.
Pour quelle raison exactement? Ça veut dire que le PAI déjà est dans cette logique,
oui,
de prendre les armes.
De confrontation armée.
Avec le soutien du FLN.
Avec le soutien du FLN, oui.
Quel est le rôle de Fanon à ce moment-là?
Ce que je sais, c'est que c'est Fanon qui a déposé ces armes à Conakry. Il y avait Oussedik, qui a été le premier ambassadeur de l'Algérie en Union soviétique. Il était à l'époque le représentant du FLN à Conakry et j'ai été chargé d'aller chercher ces armes pour les faire rentrer au Sénégal.
Qui vous a remis les armes?
Oussedik.
En présence de Frantz Fanon ?
Le Frantz Fanon, non. Frantz Fanon n'était pas présent, mais je sais que c'est lui qui les a amenés.
Donc Fanon a amené les armes à Conakry.
Oui.
À votre sens, Amat Dansoko, donc, lorsque vous avez 20 ans, lorsque nous sommes donc à la fin des années 50, pour vous, fondamentalement, l'indépendance du Sénégal, l'indépendance des Sénégalais, ne peut passer que par la libération nationale et par la lutte armée.
C'est une idéologie très courante, même dominante. N'oubliez pas qu'il y avait aussi le poids énorme des communistes chinois, dont toute l'idéologie était construite autour de la guerre révolutionnaire. Et vous savez, les armes sont rentrées et 2 ans après, nous avons tenté l'insurrection à Saint-Louis.
En 61.
Oui, oui. Sous la pression de tous ces facteurs extérieurs et aussi de ce que l'on constatait dans le monde. Partout, en Amérique latine, en Afrique, dans le monde arabe, la révolution nasserienne aussi qui a pesé sur les consciences. Nous étions nasseristes, communistes nasseristes ici. Notre choix de l'arabe comme deuxième langue participait de notre volonté d'en découdre avec la domination coloniale.
Amat Dansoko, vous avez eu le temps avec vos amis du pays de réfléchir à ce moment de l'histoire où les indépendantistes, les nationalistes que vous êtes font ce choix de la lutte armée. C'est un choix qui ne va pas réussir. Comment, avec le recul, vous l'expliquez ?
Mais non, mais c'est clair que comment pouvait-on faire une insurrection ? L'armée française était là. On a contrôlé Saint-Louis pendant quelques heures. Le maire et toute l'administration s'étaient enfuis. Le gouverneur en a fait un prisonnier dans son palais. Mais est-ce que ça avait des perspectives ? Ça s'est terminé par l'interdiction de notre parti. Et pour Majmout et moi, par un exil extrêmement long. Moi, j'ai fait 13 ans d'exil. C'est la partie la meilleure de ma jeunesse. Je l'ai faite en exil.
Écoutez RFI, la marche du monde.
Si le Sénégal devient officiellement indépendant le 3 avril 1960, l'événement ne change en rien les convictions de notre grand témoin, Amat Dansoko, révolutionnaire dans l'âme, le fondateur du PAI, le Parti africain de l'indépendance, croit à la nécessité de la lutte armée pour chasser définitivement les Français, à l'instar des Vietnamiens ou des Algériens. Pour Amat Dansoko, la lutte continue.
On ne s'est pas arrêté. À partir de 1963, nous avons envoyé des gens se former à Cuba, en grand nombre. J'ai voyagé à l'Afrique continentale avec Debré, qui faisait son premier voyage avec Maspero, et puis à l'Afrique continentale. J'étais souvent avec Josephine Becker. Ouais. Nous étions aussi délégués à une conférence révolutionnaire. On était tout le temps ensemble. Elle ne comprenait pas pourquoi je ne mangeais pas des cuisses de grenouilles.
Josephine Becker.
Donc on a formé des gens pour venir faire la guerre de guérilla. Parmi ceux qu'on a formés là-bas, là, il y a mon ancien maître, Madike Wad. Et ils sont revenus, effectivement, nous allions commencer la guerre. Ce n'était pas aussi farfelu que ça, parce que les Cubains étaient impliqués, les Algériens, Bendela, étaient impliqués. Nkrumah était impliqué et Modibo était impliqué. C'était une opération d'envergure.
À l'époque, le PAI et son leader Majmout Diop sont repliés à Bamako sous la protection de Modibo Keïta.
En jour de 64, quand les préparatifs à Cuba étaient presque en train de s'achever, tous les membres du comité central qui étaient à Dakar, qui étaient à l'intérieur, ont été convoqués. On nous dit d'aller immédiatement sur Bamako. Nous avons eu un excellent comité central où on a pour la première fois pris des décisions sur l'islam au Sénégal comme une fête nationale fondamentale. Et sur la base de quoi? Nous avons interdit dans le parti d'avoir des comportements qui apparaîtraient à la population comme des provocations, comme la consommation d'alcool publiquement. Parce que les jeunes, à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Les jeunes étaient portés plutôt par les idées marxistes et pas conservés par l'athéisme. Nous avons interdit cela. Nous avons décidé de défendre toutes les victimes de la répression, à commencer par le président Dia, qui a dissous notre parti. Et nous avons dit qu'il faut maintenant travailler à regrouper toutes les forces démocratiques et patriotiques et faire une lutte de masse.
Nous sommes en train de construire le socialisme sur notre terre et mettons notre petit grain de sable au service de la grande aspiration de l'humanité. Ben
Salem. Voilà que, quelques jours après, Che Guevara est arrivé à Bamako. C'était en février 65.
Vous le rencontrez, Che Guevara?
On était à son accueil à l'aéroport. Et le soir même, il nous a reçus.
Ahmad Dansoko, c'est un moment très fort pour vous. Hein. Vous êtes un très jeune militant.
Oui.
Vous vous battez pour l'indépendance du Sénégal. Vous croyez à cette lutte armée. Vous vous êtes formé à Cuba. Et vous avez devant vous Che Guevara.
Che Guevara. Extraordinaire. Je l'avais vu quand j'étais à La Havane. Mais avec ces jeunes officiers, ces commandants merveilleux. Et là, il faisait sa grande tournée. Il est en train de chercher un point de chute. Et on lui a dit, bon, tout est prêt. Il avait déjà évoqué la question de nos camarades sénégalais de la lutte. Les gens étaient déjà dans le maquis. J'ai dit, mais ces gens, on les envoie dans des zones où ils ne sont connus de personne. Comment le lien va se faire avec les structures de base du parti? Alors, Che Guevara nous assure que tout est prêt. Et il m'a dit, je vais aller dans la boucle du Niger. Il est allé, il a fait 4 jours, je crois, là-bas, il est revenu. Il nous a reçus une deuxième fois à l'ambassade de Cuba, à Bamako. Et il nous a parlé de ses impressions sur la boucle du Niger. Il m'a dit, quand même, il faut reconnaître que ce sera difficile de faire la révolution dans la boucle du Niger. Figurez-vous, les gens descendent dans le Niger à l'époque. En quelques minutes, ils sortent avec du poisson à manger pour plusieurs jours. C'était vraiment l'âge d'or là-bas. Il a fait l'observation. Il dit que ce sera difficile de faire la révolution parce que quand même, il faut au manque. Il a fait cette observation et puis il est allé en Guinée. Sékou Touré l'a amené à l'abbé pour sa première rencontre avec Senghor depuis l'indépendance.
Africando, arriba.
Tandis que Che Guevara poursuit sa tournée panafricaine, Ahmad Dansoko, lui, est expulsé sur Alger libéré, devenu la Mecque des révolutionnaires du monde entier. Et c'est là que Ahmad retrouve le Che 3 ans après l'indépendance de l'Algérie.
On nous expulse sur Alger. Et le Che, qui était en Tanzanie, en Afrique de l'Est, avec Nasser sur la vallée du Nil pendant la réforme agraire, qui est une chose extraordinaire, est venu à Alger à la conférence économique des peuples d'Afrique, là où il a fait son fameux discours où il disait que pratiquement sur les rapports économiques, il n'y a pas tellement de différence entre ce qui se fait entre les pays capitalistes développés et les pays sous-développés.
Donc là nous sommes en 65 toujours, donc Che Guevara est à Alger, il fait une conférence.
En mars 65, il est venu.
Quelle était l'ambiance à l'époque à Alger?
Mais c'était une ambiance révolutionnaire. Tout le monde avait le mot dans la bouche. Les femmes elles-mêmes, la libération des femmes avec Ben Bella. Les jeunes, l'université, c'était l'effervescence. Ça allait dans tous les sens, mais tout dans le sens d'une exigence révolutionnaire vers des bouleversements partout, sur le plan de la réforme agraire.
Il y avait des gens d'Égypte, il y avait des gens d'Afrique du Sud, d'Amérique du Nord, des Afro-Américains.
C'était la capitale de la révolution mondiale. Tout le monde était là.
Le PAI est disloqué. Ahmad Dansoko fait partie de ceux qui sont en exil, de ceux qui sont loin du Sénégal. Il réalise peu à peu que le passage à la lutte armée est une chimère.
Le drame de plusieurs révolutions, c'est toujours entre les gens de l'intérieur et de l'extérieur. ça se vérifie partout, entre les Algériens. Tout de suite, dès le lendemain de la révolution, ça s'est posé. Le Thiers, on lui dit, bon voilà, on nous a expulsés. Je lui dis, mais ça va être difficile. C'était chaud, il avait une admiration particulière pour moi, parce qu'à l'époque, lui, c'était pas la classe ouvrière, ce sont les étudiants. L'agitation en Amérique latine, c'était surtout les petits bourgeois révolutionnaires. Et il m'a donné le premier texte de Debré qui s'appelle « La longue marche de l'Amérique latine ».
Che Guevara vous donne ce texte.
Il me dit « Lis, il faut lire ce livre. » Eh bien, c'est intéressant, c'est écrit par un jeune philosophe du Parti communiste français.
Retour à Bamako pour Amadou Sokho, mais avec la normalisation des relations entre le Mali et le Sénégal, Modibo Keïta, président du Mali, lâche le pays.
On nous a expulsés de Bamako. Modibo, un jour, nous appelle à 7h du matin dans son bureau à Koudouba. Il était, comme toujours, de blanc immaculé vêtu, majestueux, très grand. Et quand on est rentré, il nous a dit de nous asseoir, Majmout et moi. Il nous a dit, je suis au regret de vous demander de vous éloigner un peu de Bamako. Je partage entièrement votre vie. Mais il nous dit, j'ai 5 millions de citoyens en main. Nous avons vitalement besoin de chemin de fer. J'ai besoin de ça, parce que je n'ai pas de port. Et le transport, c'est long et compliqué par la Côte d'Ivoire ou par Cotonou. Et j'ai fait signer des accords avec Senghor. Malheureusement, quand les guérilleros sont rentrés, il y a un des guérilleros qui s'est réfugié à l'ambassade. Donc le gouvernement du Sénégal a été averti qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Et Senghor, quand il y a eu la fuite, il a envoyé son ministre des Affaires étrangères, Loulou Thiam, pour dire à Modibo, nous avons signé des accords. Voilà qu'on découvre qu'à partir de ton territoire, il y a une rébellion armée qui s'organise contre moi. Alors, c'est très simple. C'est le chemin de fer ou alors des révolutionnaires. Et sur la base de quoi, Modibo nous a dit de partir. Il avait presque les larmes aux yeux. Et il a négocié notre exil à Alger.
Amat Dansoko, tout au long de votre exil, vous prolongez votre expérience et votre apprentissage politique auprès des plus grands révolutionnaires de la planète. Et pendant ce temps, au Sénégal, évidemment, différents événements se déroulent. Vous qui continuez à observer ce qui se passe au Sénégal, que pensez-vous justement de la façon dont Senghor gère la révolution estudiantine et syndicaliste ouvrière de 68 et 69 et de la façon dont il va finalement verrouiller à la fois, bien sûr, les partis politiques, vous en avez fait l'expérience, mais aussi les syndicats?
Senghor était un homme d'une intelligence très vive. Il a fait la répression avec les étudiants, mais tout de suite, il a su qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Tout de suite, sur le plan de son parti, il a reconfiguré la direction. Il a créé le Club Nation et Développement pour les intellectuels.
Alors là, nous sommes déjà effectivement en 69, à peine sortis des événements.
Oui. Il a reconfiguré son parti. Et je l'ai dit au président Diouf un jour, je lui ai dit, monsieur le président, Senghor ne choisissait jamais un ministre au hasard. Ces gens qui ont émergé à cette occasion-là, Babacar Ba, Alioune Sène, Cheikh Hamidou Kane et les autres, ils viennent souvent de grandes familles. Et lien avec les marabouts, dont ils réussissaient d'ailleurs à contenir les exigences dans le cadre de la laïcité. Mais le personnel politique, ce sont des intellectuels, mais des intellectuels issus de très grandes familles. C'est comme ça qu'il doit stabiliser son régime. Et quand même, il est bousculé ici par les marxistes. Il n'a jamais pu nous écraser. Jamais au Sénégal. Jamais Senghor n'a pu nous écraser. Ça a été très dur. Il n'a pas pu nous écraser, mais dans le même temps, il faut reconnaître qu'il n'a jamais été sanguinaire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de morts. Il y a eu des morts. Ne parlons pas du nombre de gens licenciés parce qu'ils sont accusés d'appartenir à tel ou tel parti globalement de gauche et marxisant. Parce que la particularité du Sénégal, c'est ça. La gauche, jusqu'à ces derniers temps, était marxisante.
À l'époque, le parti de Senghor ne peut pas entrer dans l'Internationale socialiste. À votre avis, quelles sont les conditions posées par l'Internationale socialiste pour que Senghor puisse entrer dans l'Internationale socialiste?
L'une des conditions, c'est d'adhérer au pluralisme politique.
Parce qu'à l'époque, nous sommes dans une situation de parti unique, n'est-ce pas?
Un parti unique ne peut pas rentrer dans l'Internationale socialiste. Il y a des maquillages, mais disons qu'il faut absolument, quand on est au pouvoir, qu'on accepte le pluralisme.
Dans les années qui suivent l'indépendance, les partis politiques sénégalais vont être peu à peu absorbés par le parti de Senghor, ou bien vont être interdits, comme le PAI, le parti dont Ahmad Dansoko est membre. Néanmoins, des contacts sont établis entre Senghor et les communistes français.
Mais Senghor, il a cherché aussi à avoir des rapports avec les partis communistes. Il a invité ici, dans la même période où vous posez ce réajustement, il a invité des délégations des partis communistes d'Europe. Ils ont demandé mon avis, j'ai dit, mais allez-y, si ça pourra aider quelque chose. Mais posez-lui la question de la levée de l'interdiction qui nous frappe.
Et alors?
Alors, Senghor, il a voulu aller en Union soviétique, on l'a invité. Et dans le protocole, il exige que Brezhnev vienne l'accueillir à l'aéroport. Les soviétiques disent qu'il y a un chef d'État, il ira t'accueillir. Il est retourné au Sénégal. D'ailleurs, t'es fâché parce que partout où il est passé dans les pays de l'Europe du Nord, il y a eu d'énormes chahuts contre lui à cause de sa complicité supposée avec le gouvernement portugais. Je ne sais pas si c'est le PAIGC qui avait demandé à ses soutiens de faire cette pression. En tout cas, c'est un des plus mauvais voyages officiels qu'il ait fait. Il est rentré ici. Il a demandé au Parti communiste français de le soutenir pour le prix Nobel de la paix. Ousmane Sembène a écrit au comité Nobel de Stockholm pour leur dire non. Et c'est ça qui a fait échouer.
Donc les communistes sénégalais étaient contre le fait que Senghor puisse recevoir le prix Nobel de la paix.
C'est fort de tout ça que Senghor convoque un conseil national où il a présenté un rapport sur la seconde lutte de l'indépendance. Senghor a dit, dans ce rapport, sur la seconde bataille pour l'indépendance, pour lui c'était l'indépendance culturelle, il dit, oui, le PAI, ce sont des garçons très intelligents, ce ne sont pas des subversifs. C'était le parti de Mamadou Dia qui était le parti des subversifs.
Pour quelle raison donc Senghor réhabilite en quelque sorte le PAI?
Une manœuvre politicienne, parce que n'oubliez pas que le parti de Cheikh Anta, le FNS a été dissous sous le prétexte qu'il y a des partisans de Mamadou Dia qui l'ont rejoint. C'est le prétexte que les subversifs sont rentrés dans le parti de Cheikh Anta. Deux fois, c'est l'argument qu'il a utilisé. Ça l'a amené à reconfigurer donc toute sa politique pour asseoir son parti sur des intellectuels, donc la modernité, mais une modernité avec des racines aussi dans le pays traditionnel.
Ahmad Dansoko, quelle vision avez-vous de la décision de Senghor de reconnaître donc un premier parti d'opposition? J'ai nommé donc le PDS de Abdoulaye Wade.
Et Abdoulaye Wade, c'est que Senghor est en quête d'une stabilisation de son régime. Et c'est dans ce contexte que Abdoulaye Wade est allé le voir à Mogadiscio. Et il lui a dit ceci: partout en Afrique, il y a des coups d'État où les militaires font rapidement jonction avec le régime marxiste-léniniste. Pour éviter ça, moi je vais créer un parti d'opposition, mais de contribution. Abdoulaye Wade allait jusqu'à inviter Senghor à présider leur bureau politique.
Comment le savez-vous? Étiez-vous là, Ahmad Dansoko?
Je sais, parce que rien ne se cache ici.
Est-ce que c'est Abdoulaye Wade qui vous l'a raconté?
Mais je l'ai écrit et il n'a jamais dit que c'est faux. C'est public. Dans mon rapport au congrès de 1984, je l'ai écrit comment son parti a été créé. Son parti a été créé parce que les marxistes ont pu résister ici. Et Senghor est conscient qu'il a échoué dans sa tentative de les éliminer définitivement. C'est ça qu'il a utilisé. Et surtout, et il lui a créé le parti. Mais Abdoulaye Wade, malin qu'il est, quand les élections de 78 approchent, il présente sa candidature. Senghor lui dit, mais non, c'est pas ce que tu m'avais promis. Et ça, c'est Wade qui m'a raconté. Et Abdoulaye Wade lui a répondu, mais comment les gens vont-ils me croire si je ne me présente pas contre vous? C'est pourquoi Senghor l'a appelé Ndiombor, à cause de ça.
Ce qui veut dire le lièvre.
Le lièvre, oui. Qui dans l'imaginaire africain est un animal extrêmement intelligent et rusé.
Amat, dans ce cours, il y a peut-être une caractéristique ici au Sénégal, c'est qu'effectivement les grands leaders des partis sont des intellectuels. Ouais. Est-ce que dans le même temps, ce statut des leaders politiques n'a pas le défaut de ses qualités? Ce que je veux dire, c'est est-ce que cette domination en quelque sorte de la vie politique par les intellectuels sénégalais ne les coupe pas un peu trop du peuple et ne rend pas difficile le développement de ces partis en partis de masse?
Oui, c'est clair, ça a beaucoup contribué. En les indépendances, nous étions des jeunes, on n'avait pas de charge. On était ou étudiants ou intellectuels sortis d'université en France ou de grandes écoles. Et ce qui est compliqué, parce que dans le parti, la dérive extrémiste du parti, c'était aussi le reflet de compétition de pouvoir à l'intérieur du parti.
Alors, vous voulez dire que pour se faire remarquer, il fallait avoir un discours de plus en plus radical.
La surenchère extrémiste, parfois actionnée de l'extérieur. Ça a beaucoup compté. Eh bien, nous avons consacré beaucoup de temps à nos différents intérieurs. Comment les populations pouvaient se retrouver dans tous ces gens-là qui se réclament du marxisme léninisme? C'était difficile. Nous avons commencé à peser quand nous nous sommes mis ensemble pour pousser Abdoulaye Wade vers le pouvoir. Ça a accru notre prestige. Et ça a donné confiance aux jeunes. C'est la caution du pôle de gauche que nous avions constitué ici, dans cette salle.
Ici, dans la salle à manger de Amat, dans Soko, ici à Dakar.
C'est ici que nous avons préparé la montée de Abdoulaye Wade au pouvoir.
Dans ces fauteuils même où nous sommes assis.
Dans ces fauteuils, et il le sait.
Et effectivement, en mars 2000, c'est l'écrasante victoire du camp de l'alternance. Les Sénégalais chantent dans les rues à la gloire du Sopi.
On a gagné. C'était extraordinaire. C'était une véritable déferlante parce que notre union à gauche a donné plus de confiance aux gens. Il est possible de faire autre chose de différent. Ça a pris notre tenue. Moi, je ne suis pas resté plus de 6 mois dans son gouvernement. Parce que d'abord, je suis rentré dans le gouvernement malgré moi. Mais c'était incroyable. Il a voulu envoyer les forces de répression, nos CRS locaux, ici, contre les syndicats. J'ai dit non. Moi, je ne serai pas membre d'un gouvernement qui réprime des syndicats. Et puis, un beau jour, ils m'ont dit, mais oui, il y a des ministres ici qui disent une chose ici, qui disent le contraire ailleurs. Et ça, quand même, ce n'est pas possible. Et ils n'osaient pas dire mon nom. Dès qu'ils finissent, ils m'ont dit, oui, vous avez la parole. Maintenant, je vais vous dire une chose, monsieur le président. Et je le pointe comme ça devant tout le monde. Je dis, je suis chef de parti. Nous sommes alliés. Mais notre parti est indépendant. Quand il a une opinion, il la dira haut et fort pour que tous les Sénégalais sachent ce que nous voulons. Et je vous rassure, je ne suis pas un comploteur. Maintenant, je vous dis, monsieur le président, je ne changerai pas. Que si je change, les Sénégalais vont rire de moi. Puis quelques temps après, je suis destitué du gouvernement et un autre ministre a été désigné à ma place.
Amat, dans ce coup, vous qui avez tout au long de votre vie rencontré de nombreuses personnalités politiques du monde entier, parmi toutes ces personnalités, quelle est celle qui continue à vous éclairer?
Il y en a tellement eu. Ça, je pense que c'est sans doute Nkrumah. C'était difficile. Il était génial. Et il a échappé à la mort par hasard. Parce qu'on devait le tuer, il n'était pas là. Je suis allé le voir quasiment le lendemain de la tentative d'assassinat dans le palais. quand l'assassin, un des gardes de la présidence, a essayé de tirer sur lui à bout portant. Il s'est jeté sur lui, il l'a terrassé. Il l'a terrassé, donc il était possible de maîtriser le gars. Mais ils l'ont tué pour qu'il ne parle pas. Et ce qu'il a pensé pour l'Afrique, je ne pense pas qu'il y ait un seul homme qui l'atteigne à la cheville.
Enfin, le combat est terminé. Et le Ghana qui était sous domination est libre à jamais. C'est l'avènement d'un nouvel Africain dans le monde. Un Africain prêt à livrer ses propres batailles et à montrer que le noir peut s'occuper de ses propres affaires.
Amat Dansoko, portrait d'un révolutionnaire. C'était un épisode de La Marche du Monde, signé Valérie Nivelon et réalisé par Sophie Janin et Steven Hesley. Amat Dansoko, disparu en août dernier, dont le témoignage précieux est conservé dans les archives de La Marche du Monde. Réécoutez cette émission avec notre application Pure Radio, podcastez, réagissez sur nos réseaux sociaux. Cette émission, c'est la vôtre.
Musique du monde.